ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Plus d'infos sur...
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle de sport sur la voie de l'Amérique. Élisée Rompati devant ce micro. Ce soir, nous allons parler de la victoire de Renaissance de Berkane en Coupe de la CAF. Le club marocain s'offre ainsi le premier sac continental de son histoire. En Côte d'Ivoire, l'incertitude plane toujours sur la reprise de la saison. Pendant qu'au Bénin, c'est la date du 29 novembre qui a été retenue par la fédération pour le démarrage du championnat. Nos consultants sont là pour les analyses et commentaires. En direct de Columbus dans l'Ohio, nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Valdo Simbo Yamba Yamba depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, on retrouve à Cotonou Albert Ogouredji du service des sports de Radio Bénin. Bonsoir Albert.
Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
Bienvenue à tous. On prend la direction de l'Europe pour parler de la deuxième journée de la Ligue des champions de football. Valdo, le tenant du titre, le Bayern de Munich, après sa remarquable victoire sur l'Atlético Madrid, pourra enchaîner demain à Moscou.
Et oui, Élisée, après les 4 buts infligés à l'Atlético Madrid lors de la première journée, la machine bavaroise s'est lancée à l'assaut de la locomotive Moscou pour sans nul doute enchaîner avec ses rythmes qu'ils savent bien imposer à leurs adversaires. Et déjà en championnat, le week-end dernier, ils ont infligé un 5-0 avec un triplé de l'inévitable Robert Lewandowski, même si ça reste un match de football, donc tout peut arriver, mais il est difficile de croire à une déconvenue de cette formation allemande qui reste invaincue en Ligue des Champions. C'est tellement efficace dans tous les compartiments que ce club allemand est difficile à jouer à domicile qu'en déplacement. À domicile, le club russe sait qu'il aura la tâche difficile, mais l'objectif sera celui de tenter de faire quelque chose de positif face aux champions en titre.
Amine Birouk, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont obligation de résultats après leur faux pas d'entrée.
Paris et le Real Madrid sont dos au mur après leurs prestations très décevantes lors de la première journée. On a vu deux équipes qui ont su se ressaisir lors des rencontres de championnat, notamment le Real Madrid lors du match du Classico face à l'éternel adversaire le Barça ce samedi. Mais la compétition européenne est un palier au-dessus par rapport aux championnats nationaux. Le Paris Saint-Germain se balade en Ligue 1. Le Real Madrid a des difficultés à faire le jeu, à créer des opportunités, à marquer des buts. Et face à une équipe comme Mönchengladbach qui a réussi à tirer son épingle du jeu face à l'Inter de Milan la semaine dernière, on verra si Zidane ne va pas encore passer au révélateur du club allemand. Le Real Madrid est aujourd'hui sous le feu des critiques de la presse ibérique. Le Paris Saint-Germain a été assommé par sa défaite contre le Manchester United et va devoir se ressaisir. Donc on verra dans quelle mesure ces deux grands du football européen vont réussir leur deuxième examen en Champions League.
Albert, la Juventus de Turin doit plus convaincre face au FC Barcelone.
Oui, déjà face au Dynamo de Kiev, ils ont plutôt été sérieux et réalistes. Là, ils sont obligés d'être encore plus performants parce que c'est le premier match de la saison européenne à domicile et en face un adversaire de taille qui donne encore plus d'ampleur et plus de côté festif à ce rendez-vous entre la Juventus et le FC Barcelone. La Juventus très joueuse à domicile face quand même au Barça de Messi, même si les retrouvailles annoncées entre les deux meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ne devraient pas avoir lieu parce que les dernières nouvelles concernant la star portugaise de la Juve sont négatives, justement parce qu'il est, lui, positif au coronavirus. Ça sera le fait notable si Ronaldo manque ce rendez-vous-là. Mais avec ou sans Cristiano Ronaldo, la Juve est bien sûr obligée de convaincre face à un Barça qui reste quand même sur un 5-1 infligé aux Hongrois de Ferencváros.
Amédine Sy, Liverpool et les deux Manchester devraient logiquement enchaîner et à Chelsea de s'appuyer une fois encore sur son gardien de but sénégalais à Krasnodar.
Tout à fait, Élisée. Chelsea qui a été tenu en échec lors de la première journée par le FC Séville sur le score de 0-1 s'appuiera une nouvelle fois sur le portier de l'équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy, pour s'imposer face à Krasnodar. En effet, Le portier des Lions du Sénégal a réalisé un début de saison canon avec Chelsea. D'ailleurs, il est le premier gardien de but de Chelsea à réaliser des clean sheets. Le dernier rempart de l'équipe nationale du Sénégal a d'ailleurs sauvé cette équipe de Chelsea ce week-end lors de la dernière journée du championnat face à Manchester United en réalisant 3 arrêts sublimes. Je pense que Frank Lampard ne s'est pas trompé en l'intronisant portier numéro 1 de Chelsea. Il faut dire qu'il sera l'atout numéro 1 de Chelsea face à cette équipe de Krasnodar qui a tenu en échec Rennes lors de la première journée Élysée.
Ligue des champions de football aussi en Afrique. Et pour finir la saison 2019-2020, on connaît la première équipe qualifiée pour la finale. Il s'agit bien évidemment d'Al Ahly, plus fort que le Wydad sur les deux matchs. Mais il faut attendre le 1er novembre prochain pour connaître son adversaire. Le Zamalek va encore patienter pour confirmer sa victoire du match aller au Maroc. Amine, le Raja a été victime de coronavirus.
L'équipe de l'Ahly a été vraisemblablement beaucoup plus forte, que ce soit lors de la manche aller ou lors du match retour. Beaucoup de déceptions du côté du Wydad de Casablanca, mais il va falloir quand même rappeler que le Wydad a atteint les demi-finales de la Champions League au moins 4 fois sur les 5 dernières éditions. On peut aussi parler de la qualité de l'équipe de l'Ahly, très complète dans toutes ses lignes et qui a su mettre à nu les carences d'un club qui n'a pas fait de mercato cette saison, en tout cas pas de mercato concluant, pas de préparation à la hauteur et qui a fait valser les entraîneurs à 4 reprises. Maintenant, bien évidemment, l'Ahly attend le vainqueur du match entre le Zamalek et le Raja de Casablanca, une équipe du Raja décimée par le Covid-19, une équipe du Raja qui va devoir attendre une semaine avant de pouvoir en découdre lors de la manche retour avec l'équipe égyptienne. Et on va voir si le Raja trouvera 2 antidotes. L'antidote contre le Covid-19, avec des joueurs prêts physiquement, techniquement et tactiquement. Et puis, l'antidote contre une équipe égyptienne qui a montré lors du match aller, notamment via ses individualités, qu'elle avait suffisamment de marge pour aller en finale.
Amine, en attendant, une finale peut-être maroco-égyptienne, celle de la Coupe de la Confédération a tourné à l'avantage du Maroc.
Et la Renaissance sportive de Berkane est devenue le 7e club marocain à remporter une compétition africaine. 16 mois après sa défaite en finale contre l'équipe du Zamalek au tir au but, l'équipe de Berkane a réussi à tirer son épingle du jeu contre les Pyramides égyptiens. 1-0, une seule réalisation, quart d'heure de jeu signé par le Burkinabé Issoufou Dayo aura suffi au bonheur d'une équipe marocaine plutôt attentiste lors de cette finale qui a cherché à jouer un jeu direct et à proposer un football engagé, contrairement à l'équipe égyptienne de Pyramides qui a voulu poser le ballon à terre avec un football qui ne sautait pas les lignes. Mais visiblement, l'organisation défensive de Berkane a été plus solide lors d'une rencontre hachée menu, avec beaucoup de difficultés à arbitrer pour le Camerounais Alioun, qui a expulsé en toute fin de rencontre le Marocain Bakri El Ahly. La Renaissance sportive de Berkane remporte le 2e titre de son histoire après la Coupe du Trône en 2018 et semble devenir aujourd'hui un des bastions forts du football africain.
Albert, les Marocains se sont rattrapés après leur échec de la saison dernière.
Oui, la belle histoire pour la Renaissance sportive de Berkane. L'autre belle histoire quand même pour Issoufou Dayo, le Burkinabé buteur et héros de Berkane dans cette finale de la Coupe de la Confédération. Est-ce que je vais parler de revanche? Je vais surtout parler de constance, moi, pour la Renaissance de Berkane qui, 2 années d'affilée, joue quand même la finale dans la même compétition. C'est la preuve de la régularité de cette équipe-là. C'est la preuve surtout aujourd'hui de son niveau qui est vraiment top sur le continent africain. La Renaissance sportive de Berkane, club né en 1971, donc un tout jeune club, aujourd'hui fait partie des puissances du football africain et essaie quand même d'exister désormais sur la carte du football marocain derrière les 2 grosses locomotives que sont aujourd'hui, en tout cas le WAC et le Raja, même s'il y a d'autres aussi, autres grandes équipes du Maroc qui se sont illustrées dans les compétitions africaines. Mais aujourd'hui, Berkane essaie d'exister sur la carte du football marocain et c'est tant mieux pour ce club-là qui a mérité et qui a surtout, dans une finale assez compliquée, qui a réussi l'essentiel parce qu'une finale ne se joue pas et elle se gagne. Berkane a gagné la finale.
Le le championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs évoluant sur le continent démarre, vous le savez, le 16 janvier 2021. Le pays hôte, le Cameroun, en préparation, vient de changer de sélectionneur. Il s'agit de Martin Mpilé qui remplace Clément Aruga. Plus de précisions avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntapo.
C'est au cours d'une réunion d'évaluation à mi-parcours de la préparation de la sélection nationale à prime que la décision de changer une partie du staff a été prise, a-t-on appris mercredi soir, dans un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique, lu sur les ondes de la chaîne publique. Le même communiqué mentionne que les performances de l'entraîneur des A' ne sont pas conformes aux attentes du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. À titre conservatoire, Martin Tungupile a été désigné comme nouvel entraîneur principal des A', alors que David Pagou a été porté aux fonctions du deuxième entraîneur adjoint. Ces dernières semaines, l'équipe A' du Cameroun a essuyé de vives critiques du public. En match amicaux préparatoire du CHAN, elle a été défaite contre le club local de Panthère d'Undé, 0 but contre 1, effet score de parité 0-0, en aller et retour contre le Soudan du Sud à Yaoundé. Le nouvel entraîneur principal de l'équipe nationale amateur du Cameroun a conduit cette équipe lors de l'édition de 2006 du CHAN au Rwanda. À plusieurs reprises, il a été promu entraîneur adjoint au sein du staff technique de l'équipe Fanion. Yaoundé, Emmanuel Zulta, VOA Afrique.
À Médine, les mauvais résultats enregistrés en amical ces derniers temps ont eu raison de Clément Aruga.
C'est vraiment dommage, Élisée, car je ne peux pas comprendre qu'on limoge un coach à cause de mauvais résultats acquis lors des matchs amicaux. Cela prouve que les responsables du football et du ministère des Sports n'ont rien compris, car les matchs amicaux, ça sert à tester des joueurs, mais aussi des schémas techniques. Et puis, nous sommes dans un contexte très difficile depuis l'apparition de la pandémie, car il n'y a plus beaucoup de compétitions. C'est pourquoi je pense qu'il faut être non seulement patient, mais indulgent envers les techniciens Élysée. Vraiment, je regrette le limogeage de l'entraîneur du Cameroun, parce qu'on n'est pas loin de la compétition. Il faut être patient pour pouvoir avoir de bons résultats en football Élysée.
Albert, Martin Mpilé a moins de 3 mois pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement camerounais.
Oui, exactement. De toute façon, le Cameroun, au-delà du défi organisationnel, veut bien figurer dans ce CHAN et ça passe bien sûr par une victoire. Et Martin Mpilé est obligé désormais de rester dans cette logique du gouvernement, de ses employeurs, en ramenant au minimum un trophée, on va dire, en ramenant en tout cas le trophée ou en gagnant ce trophée du CHAN là. Ça sera intéressant pour lui, mais là, il n'a que 3 mois. C'est aussi une spécificité, disons-le, de ce football africain-là qui, malheureusement, par moments, casse certains codes en faisant venir des entraîneurs à la dernière minute. Mais là, ça va être quand même compliqué pour lui. Dans un environnement camerounais, parlant du football qui est déjà assez complexe, comment il va essayer d'harmoniser tous les points de vue, d'harmoniser toutes les visions et réussir à faire gagner le Cameroun, ça va être compliqué. La mission devient éminemment difficile pour lui, mais nous sommes en football et elle n'est pas impossible.
Après le CHAN, l'on assistera à l'élection du nouveau président de la CAF le 12 mars 2021. En attendant le dernier délai pour le dépôt de candidature fixé au 12 novembre prochain, le président de la Fédération congolaise de football association a levé le voile sur sa candidature au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Constant Omari ne sera pas candidat et a décidé de se ranger derrière Ahmad Ahmad tout en déposant sa candidature pour le conseil de la FIFA. Valdo, ce n'est pas une surprise pour le Congolais qui préfère garder son poste de premier vice-président en cas de réélection du Malgache.
Élisée, vous avez tout dit, hein. On reste prudent, pas de risque à prendre quand on sait que la majorité a déjà opté pour la réélection du président sortant. La politique imposée par Ahmad Ahmad avant la tenue des élections va certainement ou lui donne déjà les garanties nécessaires pour qu'il se prononce au sujet de sa candidature afin de briguer un nouveau mandat. Vous le savez bien qu'Ahmad Ahmad, qui avait dressé son bilan, a aussi demandé le soutien aux différents présidents des fédérations en leur demandant d'apposer leur signature à ces documents en guise d'approbation de ces derniers, ce qui a été sagement bien trouvé de sa part. Et je pense qu'à cette politique, le président de la Fédération congolaise de football association en averti ne peut que s'aligner tout en préservant de quelque manière que ce soit son poste de premier vice-président et sa candidature au conseil de la FIFA où il estime à son tour avoir le soutien de ses amis.
Ahmedine, avec cette annonce, tout semble se dessiner pour une candidature d'Ahmad Ahmad à sa propre succession.
Tout à fait, Élisée. Non seulement la candidature de Ahmad Ahmad pour sa propre succession se dessine, mais le Malgache est bien parti pour remplir, malgré son bilan mitigé, il faut le dire. Mais le patron du football africain a profité de la pandémie pour sonder les fédérations. Et selon des sources proches de la CAF, sur les 54 fédérations que compte la Confédération, 46 sont favorables aux Malgaches. Donc il est bien parti pour se succéder, surtout après le désistement du Congolais Constance Omari. Je pense que, sauf tremblement de terre, Ahmad Ahmad sera réélu Élisée.
Amine, par contre, en Tunisie, ça fait déjà du bruit entre Wadi El Djari et Tarek Bouchamaoui.
C'est le principe de solidarité, puisque Constant Omari est premier vice-président de la CAF. Il est quasiment le colistier d'Ahmed Ahmed, et dans la moindre mesure, il lui doit fidélité et respect. Donc on comprend parfaitement la posture de Constant Omari, qui fera tout pour favoriser l'élection du président sortant. Du côté de la Tunisie, il y a une guéguerre fratricide, parce que d'un côté, Tarek Bouchmaoui aimerait bien être le calife à la place du calife. Il bénéficierait du soutien de l'Égyptien Hani Bourida, qui a eu des velléités de candidature. Mais Tarek Bouchmaoui n'a pas le soutien pour l'instant de l'État tunisien. Et dans la moindre mesure, il a vu apparaître un rival en Wadi El Djari. Wadi El Djari qui a eu à un moment la tentation de se présenter à la présidence et qui préfère maintenant un strapontin au comité exécutif et qui semble avoir le soutien de l'État tunisien. D'ailleurs, Ahmed Ahmed jouera certainement la carte de Wadi El Djari pour avoir le vote tunisien et contrecarrer son futur adversaire.
Albert, au regard de tout ceci, peut-on dire que tout est planifié pour la réélection d'Ahmad Ahmad?
Bon, je ne sais pas si tout est déjà planifié pour la réélection de Ahmad, mais je sais que Ahmad et toute son équipe travaillent justement pour sa réélection. Et là, ils essaient quand même de mettre tous les atouts de leur côté, mais nous sommes dans un contexte aussi de la CAF qui est très très complexe. Ahmad n'aurait peut-être pas, tout le monde n'attendait pas Ahmad, voilà, pour battre Issa Hayatou il y a quelques années. Donc ça reste toujours ouvert, le jeu est ouvert. C'est vrai que pour l'instant, toutes certaines grosses cylindrées de ce football institutionnellement parlant sont avec Ahmad, mais on sait aussi que l'amour n'est pas forcément fou au sein de ces grosses têtes du football africain, parlant de dirigeants. Donc tout est encore possible. Pour l'instant, Ahmad a quelques cartes en main, mais je ne pense pas qu'il ait, à l'heure où nous parlons, toutes les cartes en main pour valider une réélection en mars prochain.
Confusion totale au pays des éléphants. Ne vous y méprenez pas, nous sommes toujours en football. À quelques semaines du début de la nouvelle campagne africaine, les clubs ivoiriens ne savent pas encore s'il aura championnat. Et du coup, ils seront grandement handicapés. Alors, Ahmedine Sy, la crise électorale a eu raison de la nouvelle saison.
Exactement, Élisée, car à quelques encablures du début des compétitions africaines, rien ne bouge au pays des éléphants. C'est vraiment regrettable, car les joueurs et les clubs qui ne sont pour rien sont les plus lésés dans cette affaire. J'espère que les responsables du football ivoirien vont se ressaisir, car la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça, surtout le football ivoirien. Élisée.
Valdo, quels sont les scénarios possibles pour sortir de l'imbroglio?
Cette réalité du football ivoirien est vraiment de mauvais goût et en train de compromettre l'avenir du football, notamment sur la scène continentale. Avec des restrictions dues à la pandémie, il est encore plus difficile d'imaginer un scénario qui peut faciliter la tâche aux clubs engagés en compétition africaine interclub. Comme tout semble bloqué à cause de ces processus électoraux, je pense que toutes les parties concernées sont dans l'obligation de trouver une issue pour sauver la présence ivoirienne aux interclubs de la CAF, en permettant à ces clubs de jouer ne serait-ce que des matchs amicaux entre eux, parce qu'entre nous soit dit, il ne sera pas que question de la forme physique du joueur. Il faudra en outre se rassurer de l'état de santé du groupe en rapport avec la Covid-19. Je pense aussi que la CAF et la FIFA, qui sont partie prenante de cette situation difficile qui traverse le football ivoirien, doivent à leur tour proposer une alternative en attendant que tout rentre dans l'ordre. Sinon, c'est les clubs ivoiriens qui vont en pâtir.
Amine, c'est une menace réelle pour la candidature de Jacques Hanouma pour les prochaines élections à la CAF.
Non seulement c'est une menace réelle pour la candidature de Jacques Hanouma, qui a été à plusieurs fois membre du comité exécutif de la CAF, mais c'est aussi le football ivoirien qui se fait harakiri. Le football ivoirien a besoin de transparence, de clarté et surtout d'un état d'apaisement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les clubs ne savent pas encore s'il y aura un championnat. Il y a ce préalable de l'Assemblée générale élective et visiblement, on se dirige tout droit vers une année blanche, une année qui mettrait le football.